Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on va voir comment l'IA peut aider à répondre à vos questions sur le climat.
C'est devenu le sujet du moment en politique, en économie, dans la guerre informationnelle et nos vies de tous les jours au bureau, sur Internet ou en voiture. L'intelligence artificielle est désormais partout.
Ce sont de lettres synonymes d'immenses promesses, un champ des possibles que nous commençons tout juste à explorer. Mais l'IA est-elle aussi un danger pour la planète ?
Un danger pour la planète, un danger pour nos démocraties. Ces derniers mois, nous avons commencé à comprendre très concrètement ce que l'IA veut dire et voir à quel point elle est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, dans le climat en question, on va essayer de se concentrer sur le meilleur. En tout cas, on va vous en présenter une utilisation particulièrement utile, puisqu'il s'agit du ChatGPT du climat, en tout cas un site internet, qui se sert des rapports du GIEC pour répondre à toutes vos questions sur le climat en utilisant l'intelligence artificielle. Et on va recevoir l'un de ses cofondateurs. Ce site, il s'appelle Climate Q&A. En français, ça donne climat question-réponse, climateqa.com. Et pour en discuter, nous serons juste après, comme d'habitude, avec Sylvestre Truette, journaliste scientifique, et Gilles Rammstein, paléoclimatologue. Bonjour. Bonjour Sylvestre et Gilles.
Bonjour.
Je reviendrai vers vous après la discussion avec notre invité, puisque vous avez pu tester cet outil de Climate Q&A. Mais je me tourne dès à présent vers notre invité, Théo Alves da Costa. Bonjour, bienvenue dans le climat en question.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'être avec nous. Alors moi j'avoue que j'ai découvert Climate Q&A un petit peu par hasard. J'écoutais un webinaire organisé par le Commissariat Général du Développement Durable, leur équipe Ecolab, qui est une sorte de laboratoire dans le CGDD en charge de l'innovation et de partager des bonnes idées au service de la transition écologique. Ils font des webinaires extrêmement intéressants, d'ailleurs je partagerai le lien après ce podcast. Et celui que j'écoutais, donc, c'était aussi avec Robert Votard, qu'on a eu la chance d'interviewer dans un des épisodes précédents. Et donc avec vous, Théo Alves da Costa, alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet de ChatGPT pour le climat et quand est-ce que l'aventure a commencé ?
Ça date déjà d'il y a un an et demi, donc en avril 2023. On a voulu développer un outil parce que c'était un moment où ChatGPT commençait à être de plus en plus connu et adopté du grand public. Sauf qu'en fait, nous, on s'est rendu compte, on voulait l'utiliser en interne pour former des gens au climat et que c'était pas du tout suffisant, que ça apportait des réponses qui étaient pas précises, mais qu'en même temps, la technologie était peut-être intéressante. Et donc, en gros, nous, on a voulu tordre ça au début pour des raisons de formation en interne. Par exemple, quand on faisait des fresques du climat et se dire comment on pourrait faire en sorte que ça renvoie vraiment des réponses qui sont issues des rapports du GIEC. Et au final, au fur et à mesure, après avoir développé les premières versions, on s'est rendu compte que ça n'était pas juste utile pour nous, pour se poser des questions, mais c'était aussi utile pour les scientifiques, pour des journalistes et pour le grand public. Et c'est donc à ce moment-là qu'on l'a sorti au grand public avec cette vocation d'aider le plus de monde sur le sujet.
Alors justement, est-ce que vous arrivez à atteindre cet objectif ? Moi, je me suis amusée à utiliser le site, qui est d'ailleurs très impressionnant. Il répond vraiment très précisément à beaucoup de questions. Il y a aussi des petits loupés. Par exemple, quand j'ai demandé au site à quoi sert Climate Q&A, il m'a répondu à encourager la consommation d'aliments locaux, ce qui m'a laissé un petit peu perplexe. Mais en fait, je pense que c'était lié aux questions que j'avais posées avant, d'où l'importance peut-être de poser des questions très précises et de les contextualiser un petit peu, et puis de s'engager dans un dialogue avec l'IA comme on ferait avec ChatGPT pour préciser les questions quand c'est nécessaire. Mais quel est votre ressenti à vous, donc un an et demi après le lancement ? Est-ce que vous arrivez à diffuser les connaissances du GIEC au grand public ou est-ce que votre public reste un petit peu limité à, pour le dire ainsi, peut-être des geeks du climat qui de toute façon liraient déjà les rapports du GIEC ?
C'est top d'avoir testé, d'avoir vu aussi les failles, parce que je pense que c'est toujours l'occasion de se rappeler que ces systèmes-là, malgré leur intelligence à mettre entre des guillemets, à les chercher dans 14 000 pages d'informations, peuvent quand même malgré tout raconter n'importe quoi. Donc nous, on a mis plein de choses en place pour s'assurer que ça raconte pas trop n'importe quoi, et surtout que ça raconte des choses en rapport et en honneur aussi avec les travaux des scientifiques. Donc il y a plein d'étapes de modération, de réflexion, mais en même temps, il y a toujours des loupés. Je vais donner un exemple peut-être juste après. Mais en tout cas, le retour qu'on a, nous, des utilisateurs, c'est déjà le premier point, c'est que en fait, sans même parler de la partie synthétique de la réponse, la partie juste chercher les sources, un peu comme un contrôle F qu'on pourrait faire dans tous les PDF de tous les rapports, est déjà hyper utile. Donc en gros, la partie sur le côté, que nous, on met complètement en valeur, c'est-à-dire qu'on ne vient pas la cacher, on n'a pas besoin de cliquer sur la source pour qu'elle apparaisse. Elle est toujours là et elle prend la moitié de l'écran, de telle sorte à ce qu'en fait, pas mal de nos utilisateurs se servent que de cette partie-là. La partie synthèse, en fait, presque ça les importe pas. Par contre, ce qui les importe, c'est de savoir qu'à la page 1442, on a parlé de l'inversion du dipôle indien sur le scénario SSP 8.5 des rapports du GIEC. Et donc ça, c'était le premier retour, c'était vraiment de se dire la source mère, en fait, est presque plus importante que la réponse. Et ensuite, la synthèse en tant que telle, elle va être différente utile en fonction des gens qui l'utilisent. Et par exemple, on a eu la chance de travailler avec les gens qui sont derrière le support de l'IPBES, qui est donc le GIEC de la biodiversité, qui est aussi à l'intérieur de l'outil, et qui, eux, par exemple, ont vachement testé la version enfant, parce qu'on peut configurer une version enfant, parce que ce qui les intéressait, c'était de se dire que ça pourrait servir à générer des réponses dans les musées d'histoire naturelle en Allemagne pour les enfants qui s'intéressent à la biodiversité. Et de l'autre côté, on sait que, par exemple, on a des utilisateurs qui sont plutôt experts, mais sans être scientifiques. Ça, je pense que c'est peut-être le public numéro un qu'on a, qui se sont posés des questions, donc ils n'ont pas connaissance pour le coup de tous les papiers scientifiques sur le sujet, ils connaissent un peu le GIEC, mais pas trop. Et donc eux, pour le coup, ils sont hyper intéressés d'avoir une réponse qui est construite, qui va au-delà des sources et qui va mélanger un petit peu toutes ces sources-là. Donc en fait, on a vraiment eu plein de familles d'utilisateurs qui trouvent un intérêt différent dans différents aspects de l'outil, que ce soit la réponse, cette reformulation ou les sources elles-mêmes. Et après, je reviens peut-être sur que parfois il peut y avoir un loupé. Et je donne un exemple, les loupés, à quoi sert le site? On essaye maintenant de les contrôler de plus en plus, mais ceux qui nous embêtent, par exemple, et ça on a eu, et aujourd'hui on a encore des loupés là-dessus, c'est sur de l'information qui est localisée et qui n'est pas dans les rapports du GIEC. Et par exemple, on a eu plein de gens qui nous ont posé des questions et qui ont se sont rendu compte que quand posait quelle serait la température à Marseille en 2050, en fait ça n'est pas dans les rapports du GIEC. Et donc l'outil va faire un peu un amalgame entre Marseille, zone méditerranéenne, qui effectivement est dans les rapports du GIEC, et peut-être appliquer ça à d'autres périmètres. Et par exemple, quand on pose des questions sur quelle va être la température à Bordeaux en 2050, il va peut-être faire l'amalgame avec Marseille et la zone méditerranéenne et dire que en général, près de la Méditerranée, à Bordeaux, il se passe telle chose. Et du coup, ça va être potentiellement complètement faux parce que il n'y a pas toutes les informations précises parfois dans les rapports. Et du coup, il va faire un amalgame un peu bizarre, sémantique, qui parfois peut juste dire des bêtises. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est comment aller au-delà des rapports du GIEC tout en restant très proche des travaux scientifiques.
Juste pour insister du coup et bien clarifier ce point, c'est-à-dire qu'à la différence de ChatGPT qui se nourrit de tout ce qu'il peut trouver sur Internet, vous, le site Climate Q&A, il se nourrit essentiellement des rapports du GIEC et des rapports de l'IPBES, c'est ça?
Exactement. Et même d'ailleurs, strictement. C'est un travail qui a été assez dur, en fait. C'est parce que ces algorithmes-là, s'ils fonctionnent bien, en fait, si ChatGPT est aussi intelligent, à nouveau à prendre avec des guillemets, c'est parce que on a appris énormément de choses à l'intérieur sur la manière dont fonctionne le langage, la sémantique. Et c'est parce qu'on a fait découvrir à ces algorithmes-là tout Shakespeare, tout Molière et tout Wikipédia, que ça permet d'un tout petit peu commencer à raisonner quand on pose des questions. Et donc ça, c'est à la fois hyper utile, mais en même temps, ça apporte des biais de conception quand on vient créer ça, qui vont parfois répondre correctement, mais on ne sait pas trop si c'est correct. Parfois, avec un biais américano-centré qui n'est pas toujours idéal d'un point de vue quand on se pose des questions sur le climat. Mais en tout cas, ça va jamais expliciter très clairement que c'est ça l'état des lieux sur le consensus scientifique en rentrant vraiment dans le détail. Et donc nous, au début, on avait même mis plus de sources que ça. On avait mis des sources de confiance quand même, mais pas avec le même niveau de consensus scientifique que celui du GIEC et l'IPBES. Et le premier retour qu'on avait eu des climatologues, notamment du GIEC qui avait testé l'outil, c'était d'enlever des sources qui certes auraient pu être de confiance, mais pour rester cantonnées au GIEC et à l'IPBES. Et déjà là, c'est déjà une base de connaissances qui est monstrueuse et qui au moins permet de savoir où est-ce qu'on est, sans s'éloigner trop. Et donc, de forcer, quitte à pas toujours répondre, voire à répondre, à refuser de répondre quand on n'a pas trouvé l'information, alors que parfois on aurait pu répondre, ça nous permettait aussi de se protéger par rapport à ça et de garder cette légitimité scientifique de l'outil.
Oui, et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait le test, il y a deux choses qui m'ont frappé entre votre outil et ChatGPT. La première, c'est que les réponses sont systématiquement sourcées. Alors, comme vous le disiez, il y a sur l'écran de droite les sources mères. Mais là, à chaque fois qu'il donnait une affirmation, il y avait un petit numéro sur lequel on peut cliquer qui nous ramène à la source, qui nous explique d'où ça vient. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Et la deuxième chose, c'est que l'outil sait qu'il parfois ses limites et sait dire aussi quand il ne sait pas. Par exemple, plusieurs fois, il m'a dit, bah ça, par contre, je suis désolée, je peux pas vous répondre parce que peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est dans les rapports. Ou ça peut être dû à mon moteur de recherche. Et tout ça était finalement assez humble et c'était aussi des choses que j'ai finalement rarement entendues chez ChatGPT. Donc vous avez fait un effort pour que votre moteur de recherche soit conscient de ses limites en fait.
Oui, exactement. C'est dans la manière non technique de le dire, c'est qu'on a essayé de lui mettre un peu d'humilité, ce que n'a pas toujours ChatGPT.
Ouais.
Et en pratique, c'est dans le système, comment il fonctionne. D'ailleurs, système qui au passage est open source, c'est aussi une des différences par rapport à un pur ChatGPT, c'est qu'on peut, c'est-à-dire que c'est tout à fait auditable, transparent, et d'ailleurs n'importe qui peut récupérer le code pour construire des choses dessus. On a eu pas mal aussi de gens qu'on connaissait pas, qui ont voulu contribuer pour ajouter des choses. Ça permet aussi de rajouter une couche de confiance dans l'algorithme. Mais en tout cas, ce qu'on a mis en place, c'est il y a au moins 4 niveaux de modération pour s'assurer que on raconte pas n'importe quoi et éviter de répondre quand on a un doute. Et là, on est en train, et je pense qu'on va en parler après, de rajouter des fonctionnalités en ce moment qui devraient sortir en octobre. Et notamment, une des choses qu'on va rajouter, c'est une requalification de chacune des sources. Donc aujourd'hui, on vient chercher 10, 15, 20 passages dans les rapports du GIEC pour construire une réponse. Et avant de construire une réponse, c'était déjà un filtre sur la pertinence de ces passages-là. On va refaire un deuxième filtre et on va afficher à l'utilisateur, est-ce qu'on a confiance dans la source? Avant de faire la réponse, très concrètement, sur le côté, on va voir pas juste le passage, mais on va aussi avoir un score, par exemple, qui dirait ça a l'air intéressant, mais j'ai seulement 40% de confiance que c'est pertinent. Et comme ça, tout de suite, l'utilisateur va pouvoir se dire, ah bah tiens, cette réponse-là, elle a été construite avec 10 passages sur lesquels on est quasiment sûr qu'ils sont utiles. Par contre, celle-là a été construite avec 10 passages où on n'est vraiment pas du tout sûr. Et ça, par exemple, je l'ai pas mal testé, mais c'est pas encore live dans l'outil. Quand on pose une question sur c'est quoi la recette de la tarte aux pommes et est-ce que la pomme va avoir la culture de la pomme va être mise à mal par le changement climatique? Bah, au final, on pose des questions parfois, on se rend pas compte qu'ils sont hyper circonvolus et c'est pas toujours facile pour un algorithme de trouver des passages qui sont vraiment en rapport. Et donc là, en fait, peut-être que il y a par un hasard sémantique, il y aurait des passages qui peut-être sont pertinents. Et si on les requalifie et qu'on fait vraiment un travail sur les sources, on peut quand même montrer à l'utilisateur qu'on n'est même pas sûr de la source en tant que telle qu'on a utilisée pour construire la réponse. Donc en gros, là, on viendrait rajouter une nouvelle couche encore de modération, donc une cinquième, pour s'assurer de garder cette fiabilité-là.
Alors je voudrais qu'on revienne sur cette question de la confiance, parce que dans le dernier épisode du Climat en question, on parlait justement des algorithmes sur les réseaux sociaux. Alors on est loin du modèle que vous décrivez là, hein, open source avec des algorithmes tout à fait transparents. Et on s'est aussi demandé comment finalement arriver à reconnecter des gens qui s'auto-informent sur les réseaux sociaux avec des mauvaises informations, avec des informations scientifiquement vérifiées. Et du coup, je me demandais si votre outil Climate Q&A, il arrive justement à toucher cette audience-là. Est-ce qu'on arrive à toucher des gens qui cherchent vraiment à s'informer et éventuellement est-ce que ça peut aider à lutter contre les fake news en ligne qui circulent beaucoup aujourd'hui sur le climat?
Honnêtement, alors, est-ce qu'on arrive, je vais répondre par bout, est-ce qu'on arrive à attirer des gens qui peut-être sont climato-scepticisme? Je ne sais pas trop parce qu'on a fait le choix dès le début de ne rien demander aux utilisateurs. Donc, en gros, on ne connaît pas dans le détail nos utilisateurs. La seule chose qu'on, c'est-à-dire, on ne demande pas qui vous êtes, d'où vous venez, comme on voulait minimiser la barrière à l'entrée pour que tout le monde puisse poser des questions, on a fait en sorte qu'on n'a même pas besoin de se connecter avec son compte. Et donc, on récupère aucune information personnelle à part la question que les gens posent. Et donc, en gros, nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait une méta-analyse scientifique. Donc, on a publié un article scientifique là-dessus. On pourra peut-être mettre en lien de cet article dans lequel on a analysé les 40 000 questions que les gens avaient posées depuis la création de l'outil, de telle sorte à ce que notre but était de savoir qu'est-ce qui émerge comme tendance, quels sont les types de questions que les gens posent. Et aussi pour pouvoir revenir après vers les scientifiques climatiques pour leur dire voici les questions que le tout venant se pose, que les experts se posent quand ils configurent en mode expert, et est-ce que ces informations-là, c'est des choses qu'on trouve dans les rapports? Et ça, par exemple, c'est ça qui a aussi permis de faire émerger que 26% des gens posaient des questions très personnelles, dans le sens qu'est-ce qui va m'affecter moi sur le changement climatique? Est-ce que mon métier d'agriculteur va changer? Est-ce que je vais avoir une tempête, je vais plus de tempêtes à horizon 2050 à Marseille? Je donnais cet exemple-là. Donc des choses qui, c'est pas des informations personnelles, mais plus des choses qui les concernent personnellement. Et ça, en fait, des choses qui les concernent personnellement, c'est difficile de trouver des infos dans les rapports du GIEC. Donc c'était d'ailleurs typiquement le premier point de loupé que nous on a dans l'outil. Mais par contre, en ayant cette information-là, ça nous a permis de revenir vers les scientifiques, les climatologues, et notamment ceux qui en sont en train de préparer le 7e rapport du GIEC en ce moment, pour se dire qu'il y a une super ressource qu'ils ont créée, qui s'appelle l'IPCC Atlas, qui est une déclinaison des modèles CMIP6 à une maille locale, dans laquelle on peut voir en fait ces informations-là, et qui ne sont pas dans les rapports parce que c'est un site interactif. Et en fait, nous, quand on ça permettait de voir que ce truc-là, en fait, était peu connu, peu utilisé, et que si jamais il y avait un travail à faire dans le septième cycle des rapports du GIEC, bah, pour pouvoir diffuser la connaissance scientifique, il y avait un fort intérêt de développer cette partie-là, qui était aussi la partie comment moi ça va m'affecter moi, et comment décliner ça.
Je fais une petite parenthèse parce que justement, cette question de comment traduire les rapports du GIEC, les résultats des modèles climatiques, en qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour un agriculteur dans une région très précise en France, qu'est-ce que ça veut dire pour une collectivité locale, pour une ville, ce sera justement cette question-là, le sujet d'un de nos prochains épisodes.
Et donc, on a pu voir ces choses-là. Mais donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que, il y avait quand même pas mal de questions sur est-ce que ça c'est vrai, est-ce qu'il y a une origine anthropique du climat, etc. Donc, on a un peu toutes ces données là-dessus. Est-ce que c'est des gens qui étaient convaincus, qui voulaient solidifier un argumentaire pour justement pouvoir répondre à des climato-sceptiques? Peut-être. Est-ce que c'était directement des climato-sceptiques? C'est possible aussi. Donc ça, par contre, on n'a pas l'information. Et donc, est-ce que ça peut quand même être utile pour travailler sur le sujet? Pour des fact-checkers, oui. Ça l'est utile. Par exemple, on l'a pas mal testé sur la vidéo du Raptor climato-sceptique,
Cette même vidéo qu'on évoquait d'ailleurs justement au tout début de notre dernier épisode sur les réseaux sociaux.
sur lequel on a fait passer un peu plein d'arguments pour pouvoir trouver des informations dans les rapports du GIEC et savoir comment répondre, mais en même temps non suffisantes parce que non systémiques, pas si facile d'accès. Effectivement, faut le connaître pour pouvoir l'utiliser, et parfois aussi pas suffisant pour répondre à des arguments qui ne seraient pas que basés sur la science. Par exemple, l'outil n'est d'aucune utilité pour répondre à des attaques ad hominem sur le GIEC lui-même ou sur les scientifiques ou sur d'autres éléments qui sont pas tant des questions scientifiques, par exemple sur la finesse de la voiture électrique et de ses impacts, sur la finesse des énergies renouvelables et les questions géopolitiques autour. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans le GIEC. Et donc, en gros, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, par exemple, sur une vidéo très climato-sceptique comme celle du Raptor, il y avait peut-être la moitié des arguments sur lesquels ça permettait de trouver des choses, et l'autre moitié sur lesquels c'était autre chose auquel l'outil ne répondait pas.
Oui, alors évidemment, donc l'outil va pas lui-même aller combattre les climato-sceptiques, mais il peut outiller celles et ceux qui veulent apporter des arguments, des références en leur fournissant des informations très utiles. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à une autre fonctionnalité de cet outil, qui est la description des graphes. Moi, ça m'intéressait particulièrement parce que donc mon père, Gilles Ramstein, on l'écoutera dans quelques minutes, lui, il peut plus voir les graphiques du GIEC à cause d'un problème de vue. Et donc, quand il fait des présentations sur les rapports du GIEC ou quand il fait sa recherche, il a besoin de passer par des intermédiaires pour traduire ces graphique, notamment de demander à des gens de lui décrire. Et c'est pas un exercice facile, hein, parce que même quand on s'y connaît un petit peu dans le climat, c'est vrai que ces graphiques sont pas forcément faciles à lire pour le commun des mortels. Donc ma première question, c'était pourquoi vous avez développé cette fonctionnalité? Est-ce que c'est à cause de la complexité des graphiques? Et aussi, comment vous avez fait? Parce que du coup, en raison de cette complexité, comment est-ce qu'on fait pour entraîner une intelligence artificielle à comprendre et à analyser et à expliquer de façon simple ces graphiques?
Alors, le pourquoi, il est un peu comme toutes les fonctionnalités maintenant qu'on essaye de développer, c'est en pratique, et c'est aussi, je pense, une question qu'on voulait aborder, c'est des retours qu'on a eus d'utilisateurs de différents types de profils. Donc, soit justement des gens du grand public, des experts, mais pas scientifiques, des scientifiques, des journalistes. Et donc, un des retours qui est remonté très vite, notamment par les scientifiques, les climatologues, les géants du GIEC et de l'IBES, c'était que une des matières brutes les plus importantes que au début on n'avait pas pris en compte, les graphes, les tableaux, les notes de bas de page et les autres références scientifiques qui renvoient vers d'autres publications qui sont résumées et synthétisées dans les rapports. Et donc, en gros, à partir de ce moment-là, bah, on s'était dit, bah, on attaque ce qui est le plus utile dans l'ordre de facilité. Et donc, par exemple, une semaine après la sortie, sur un retour de Valérie Masson-Delmotte, on avait intégré les notes de bas de page pour être sûr de bien prendre ça en compte. Les graphiques, c'est plus compliqué, mais ça a toujours été un point qui était important parce qu'elles apportent une information qui est à la fois pas reprise forcément à l'écrit dans les rapports, et en même temps, elles sont extrêmement utiles pour de la communication scientifique autour des rapports. Et donc, il y avait un double intérêt de le prendre en compte, mais une difficulté technique, technologique à pouvoir le faire. Et donc, en gros, on a fait déjà un premier test, et aujourd'hui cette fonctionnalité, nous on dit qu'elle est en bêta parce que elle pourrait être énormément améliorée. On a pris donc chacun qui est le plus important, donc les figures notamment dans les SPM, donc dans les résumés pour les décideurs, un peu plus que celles qui sont cachées dans les à la page 4000 et qui sont en tout petit et qui sont peut-être un peu moins importantes dans le discours. Et on les a légendées avec un algorithme d'IA en essayant de vérifier que ça disait pas n'importe quoi. Et ensuite, ce légendage, on vient l'indexer un peu comme un paragraphe supplémentaire qu'on pourrait trouver dans les rapports. Et du coup, quand on trouve que cette légende est pertinente pour répondre à la question, on vient afficher cette image, l'image qui est peut-être la plus pertinente, ou en tout cas qui est au moins aussi pertinent que un autre paragraphe qu'on aurait pu. Donc en gros, c'est une première fonctionnalité qui déjà permet aussi d'illustrer, d'aller chercher du contenu supplémentaire. Mais en fait, en pratique, on réfléchit à pas mal d'autres améliorations par rapport à ça.
Oui, donc je note bien que c'est en version bêta, donc en phase de test et d'amélioration. On vous partagera quelques retours, parce qu'avec Gilles, on a fait pas mal de tests. Et c'est vrai que ça n'a pas été très concluant, parce que, en fait, quand on demande à l'outil de décrire, par exemple, le graphe numéro 1 du rapport pour décideur du GIEC, en fait, il va décrire plusieurs graphiques différents qui, pour lui, s'appellent tous des graphes numéro 1 de rapport pour décideur du GIEC, du coup, de plusieurs rapports, par exemple, le rapport spécial. Et il mélange, en fait, un peu ses résultats, ce qui, du coup, fait un résultat final qui n'est pas vraiment exploitable et qui n'est pas du tout pertinent pour la figure qu'on voulait décrire. Donc, il y a vraiment un enjeu d'arriver à lui faire décrire exactement la figure dont on parle, quoi. Et comme en plus on peut pas la voir à droite, il met juste toutes les sources qu'il utilise, on se rend compte qu'il utilise plusieurs sources différentes, mais ce serait peut-être du coup utile d'avoir une seule figure à côté. Après, une fois qu'on arrivera à passer cette difficulté et à se faire comprendre, quoi, sur quelle figure on veut qu'il décrive, là je pense qu'il y a vraiment un très bon potentiel, en particulier pour des gens qui ne voient pas. Même si je comprends que c'était en fait même pas quelque chose auquel vous aviez pensé dans le développement de cette fonctionnalité.
Oui, complètement. C'est vraiment dans un but de pédagogie à la base. Et donc là, typiquement, c'est hyper intéressant parce qu'on nous avait pas fait le retour de l'accessibilité jusqu'à maintenant. Et donc, ça justifie qu'il y a peut-être d'autres intérêts. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des retours utilisateurs. Et donc, on est vraiment, genre, on attend avec grand plaisir les retours de ce qui pourrait être utile justement pour guider ce qu'on développerait comme fonctionnalité.
Justement, j'allais vous demander comment on pouvait vous aider. Donc voilà, l'appel est lancé. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience, vos idées sur le site de Climate Q&A. Et pour conclure cet entretien, je voulais vous interroger sur le coût du lancement d'un tel outil. Alors son coût environnemental et énergétique, on va y venir dans une seconde, mais aussi son coût simplement économique ou au minimum en termes de temps. Comment vous avez fait pour lancer cet outil et comment il est financé?
Tout à fait. C'est Equimetrix, l'entreprise pour qui je travaille et dans lequel on le développe. On est entreprise à mission et ça fait partie de notre mission juridique qu'on a rentrée de se dire socialement notre intérêt c'est de développer des outils qui vont faire avancer aussi le schmilblick pour les gens qui travaillent sur le sujet et donc notamment les communautés scientifiques. Et donc en gros on a réussi. Moi c'est aussi ça, je remercie aussi mes boss un peu de m'avoir fait confiance sur ce sujet-là, mais de se dire que c'était quelque chose qu'on voulait faire et que ça resterait quelque chose de gratuit, d'ouvert. Et donc on a un peu de budget sur le sujet, mais c'est pas énorme parce que malheureusement on n'a pas tant d'utilisateurs que ça. Et donc pour l'instant c'est pas trop un sujet. Et donc après moi c'est mon bébé, donc je travaille aussi dessus sur mon temps personnel. Donc ça me permet aussi d'avancer sur l'outil avec au final assez peu de budget. Et c'est aussi à ça que sert un intérêt communautaire et open source, c'est de maintenir un outil dans le temps qui est là pour le bien commun, quoi.
En tout cas, merci beaucoup pour tout le temps que vous y avez consacré. Et je voudrais pas qu'on termine notre entretien en parlant d'intelligence artificielle sans interroger son coût énergétique et son coût en termes environnementaux, pour le climat, pour la planète, comme on le disait en début d'épisode. Alors, est-ce que vous vous êtes posé cette question, puisqu'on parlait de bien commun? Est-ce que finalement cet outil fait plus de bien que de mal? Est-ce que c'est possible de le mesurer? Est-ce que vous avez des réponses sur ces questions?
Alors, c'est une excellente question. Et pour le coup, si vous voulez me réinviter pour qu'on parle spécifiquement de ça, je suis assez spécialiste du sujet et étant du coup très au fait de ce qui se passe, on a mesuré dès le premier jour et il y a une page qui est dans le site sur le site internet climateqa/ empreinte carbone sur lequel il y a tout le détail et toutes les hypothèses de ce que ça fait et de ce que ça consomme. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'estimation qui est hyper estimé parce qu'en fait en pratique on a très peu de chiffres et c'est un des problèmes avec l'IA, c'est qu'on se rattrape à des chiffres et qu'il y a très peu de transparence auprès des acteurs du numérique chez qui on va utiliser des services. En gros, ce qu'on sait à peu près, ce qu'on sait chiffrer, c'est qu'il y a 0,1 gramme par requête qui est dû au traitement, ça pour le coup on en est sûr, plus 0,4 gramme de CO2 par requête qui est dû à l'utilisation d'une API, donc d'un service d'IA générateur GPT. Qui en gros représente entre sur une requête à Climate Q&A entre 4 et 10 fois une recherche sur Google, qui au passage une recherche sur Google utilise déjà de l'IA sans le savoir depuis bien 7 ans. Et donc en gros on est à peu près à cet ordre de grandeur-là. Donc nous ce qu'on a calculé c'est qu'avec 40 000 utilisations et en prenant en compte l'entraînement, l'amortissement, etc., on était si je me trompe pas à quelques kilogrammes de CO2, c'est-à-dire quelque chose qui pour le coup avec le peu d'utilisation qu'on a 40 000, c'est pas beaucoup par rapport aux millions d'utilisations par jour de ChatGPT. Ça représentait quelque chose qui était assez anecdotique, de l'ordre de, enfin, l'équivalent, c'est un repas avec du bœuf, en gros, depuis la création de l'outil tout confondu. Donc, ça veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'impact, mais pour le coup, on l'a mesuré avec plein d'hypothèses et il y a tous les chiffres qui sont sur le site internet. Et sur une utilisation comme ça, c'est possible en fait de faire une IA qui genre sert à quelque chose et qui n'est pas une absurdité environnementale. Par contre, le problème global de l'IA comme un sujet environnemental, ça peut-être on peut creuser ça une autre fois.
Avec plaisir, ça me semble important en effet de creuser ces aspects de consommation énergétique et de conséquences de l'IA, mais on fera ça dans un autre épisode, il faudra qu'on vous réinvite. En tout cas, merci beaucoup Théo Salves da Costa d'avoir été notre invité aujourd'hui, et je vais me tourner vers Sylvestre et Gilles qui ont pu tester votre outil. Alors Sylvestre et Gilles, je le disais, vous avez testé Climate QA, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me tourne d'abord vers toi Sylvestre.
Alors, le système est capable de produire, en réponse à des questions, des résumés très bien articulés des contenus essentiels du rapport du GIEC. Et donc, ça peut être très utile pour, par exemple, un journaliste qui se demande, bon, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans les rapports du GIEC sur, je ne sais pas, les cyclones ou sur le risque du niveau marin. S'il pose bien sa question comme ça, il aura très probablement des éléments de réponse qu'il pourra utiliser d'une manière fiable dans un article sur le sujet. Ensuite, l'approche qu'on peut avoir et qui est générale pour les modèles de langage génératif, c'est que comme c'est essentiellement basé sur l'occurrence, la fréquence des suites de mots, qu'il n'y a pas de compréhension au sens humain du terme derrière, c'est des les propositions du système seront pas les meilleures possibles en termes d'articulation des relations entre les causes et les effets, et donc ça peut rater finalement les raisonnements, y compris physiques, qui sont dans les rapports du GIEC, mais qui supposent, pour être retraduits dans ce genre de résumé, une compréhension de la physique qu'il y a derrière. Or, évidemment, ce n'est pas ce que fait ce genre de système.
Oui, donc c'est vrai que dès qu'on veut creuser un petit peu, aller vraiment vers la compréhension des systèmes, des mécanismes, que ce soit, comme tu le dis, hein, les systèmes physiques dans les rapports du groupe 1 ou socio-économiques dans les rapports du groupe 3, on peut rencontrer quelques limitations. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais je laisserai les auditrices et les auditeurs tester pour eux-mêmes avec l'outil climateqa.com. Gilles, je me tourne vers toi. Toi, quelle a été ton impression en testant cet outil?
Moi, je pense que ce travail permet de donner accès à des milliers de pages des rapports du GIEC. Le GIEC, c'est vraiment trois groupes qui travaillent pendant assez longtemps pour produire trois rapports et un rapport de synthèse, plus quelques rapports spécifiques. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement volumineux. Il y a des résumés pour décideurs, il y a des résumés techniques. D'ailleurs, j'incite la plupart des auditeurs à lire pour les résumés pour décideurs de chaque work package, parce que c'est relativement accessible. Mais le fait de pouvoir, grâce à une IA, avoir accès à cette information, que ça puisse répondre à des questions. Alors, il faut voir quelles questions. Hein. Théo a bien expliqué qu'évidemment, il y a des questions auxquelles il ne répondra pas, comme par exemple, quelle sera la température à Marseille dans 50 ans sur la Canebière le 12 janvier. Bon, ben, ça, c'est juste pas possible d'y répondre. Mais ça permet quand même aux gens d'avoir des réponses à un certain nombre de questions sans avoir cette peur d'être confronté à des milliers de pages. Donc je pense que la puissance de l'IA par rapport à ça est vraiment importante. Donc pour ça, je pense que c'est effectivement très utile. En plus, tant qu'il s'agit de texte, c'est très bien fait. Ça vous permet en fait de hiérarchiser par rapport à une question tous les arguments. Donc tout ça, c'est bien. Je pense que par rapport à ça, il faut être aussi sensible aux limites.
Alors les limites, on va y venir. Une fonctionnalité, par exemple, de l'outil que je pensais être un progrès très important pour toi et dont je t'ai beaucoup parlé, c'était la description des figures, puisque tu peux pas les voir. Et en fait, ça n'a pas exactement bien marché. Tu peux nous dire pourquoi?
Alors bon, moi, j'enseigne dans un M2 pour des journalistes. Chose un peu paradoxale, mais j'ai fait tout un enseignement sur les 10 figures et les 10 concepts qu'il y a sur les 10 figures du rapport pour résumé pour décideur du groupe 1, ce qui est mon travail en fait. Et donc, j'ai vraiment travaillé sur ces figures. Et donc, quand j'ai interrogé QEA sur ça, alors c'était la débâcle totale, parce qu'en fait, pour l'instant, ça va sans doute s'améliorer. Mais il ne sait pas de quelle figure on parle. Même quand on lui demande la figure 1 du groupe 1 du dernier rapport, eh ben, il vous décrit un mélange de figures ou pas la bonne figure. Donc ça, c'est un peu un souci. Évidemment, c'est beaucoup plus dur que de brasser du texte, parce que ça, on sait très bien le faire maintenant, de façon tout à fait remarquable grâce à l'IA. D'écrire des figures, trouver la bonne figure, être sûr que... Voilà, ça demande un peu plus de travail, et c'est pour ça que je pense que pour l'instant, c'est pas à la hauteur des espérances. Mais oui, bien sûr, en particulier pour des gens comme moi qui ne peuvent pas voir les figures, le fait d'en avoir une description fiable et robuste, ce serait très bien. Et bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas, mais quand ce sera le cas, évidemment, ce sera un gros progrès.
Oui, et on compte sur Théo et son équipe pour améliorer cette version bêta. Est-ce qu'il y avait d'autres limites que tu voulais mentionner?
Alors, il y a plusieurs limites, hein, je ne pense pas forcément à toutes, mais une des limites que je vois, c'est que pour des gens qui sont un peu experts, qui veulent savoir des choses, je pense que ça peut répondre pas mal à leurs demandes. Pour des gens qui sont moins experts, je pense que rien ne remplace quand même la discussion avec des scientifiques. Et on ne peut pas tout savoir de sa chaise de bureau. D'abord parce que tout n'est pas figé, qu'il faut vraiment aller discuter, prendre les occasions que vous avez pour aller discuter avec des gens vivants, des gens qui peuvent répondre à vos questions. C'est toujours mieux. Ceci dit, c'est très important d'avoir accès de ses choix à l'heure qu'on veut, à des informations. Donc je dis juste que ça ne change pas le fait qu'il faut derrière un peu d'humain.
Oui, on y revient souvent à ce point, l'importance que l'IA ne remplace pas les contacts humains. Sylvestre, toi aussi, ça c'est un des principaux risques qui t'inquiète?
Le principal risque, c'est l'incompréhension de comment il marche. Et le fait que la plupart des utilisateurs naïfs, impressionnés par le résultat en termes de syntaxe, de qualité du vocabulaire, etc., qui est souvent très au-dessus de leur propre niveau de contrôle de leur langue, ils vont lui attribuer, par anthropomorphisme, des capacités intellectuelles d'intelligence générale que le système n'a pas.
Alors on a parlé des risques, on a parlé des limites. Est-ce que pour terminer, Gilles, tu peux nous donner quelques exemples concrets de comment l'IA peut aussi être utile dans ton travail, toi ou les équipes de modélisateurs qui utilisent l'IA aujourd'hui?
Oui, ben ça, je pense que moi, je suis en fin de carrière, mais donc j'ai vu quand même énormément de changements. J'ai vu ce que c'était que travailler avec un modèle atmosphérique et puis un modèle énorme qui intègre toutes les composantes. Donc ça, c'est un peu des changements, si vous voulez, incrémentaux. Mais je pense que l'IA va révolutionner beaucoup de choses. Je me rends même pas compte parce que j'ai pas la connaissance suffisante, mais je me rends bien compte que être capable de maîtriser, de comprendre, l'IA pour pouvoir l'utiliser intelligemment, ça va, je pense, révolutionner beaucoup de choses. Et j'ai même du mal à me rendre compte à quel point ça va le faire. Mais c'est vraiment un changement, je pense, assez... On change vraiment de niveau, quoi. C'est plus simplement incrémental, comme par exemple passer d'un modèle qui est capable de calculer tout ce qui est atmosphérique, puis atmosphérique et océanique, puis atmosphérique, océanique et d'une certaine façon biogéochimique. Donc avoir une représentation de tous les interactions d'un système Terre, c'est une chose. Mais d'être capable d'utiliser de l'intelligence, moi j'aime pas l'intelligence, moi je préfère de l'agilité artificielle, c'est-à-dire en fait que l'IA vous rend capable d'explorer tout un espace de phase auquel vous auriez même pas pensé.
Et on reviendra sur cette question qui est un peu complexe, mais avec des exemples très concrets quand on parlera de l'épisode sur l'attribution et sur ce que permet l'intelligence artificielle en mettant en lien d'énormes quantités de données qui permettent de mettre en valeur parfois des corrélations qu'on ne parvient pas à expliquer et qui peuvent permettre, en creusant de nouvelles pistes de recherche, de faire avancer la science. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Un grand merci à nouveau à Théo Alves da Costa d'être venu nous présenter climateqa.com. Je vous invite tous à aller y faire un tour, à tester et puis à partager vos retours puisque vous l'avez compris, c'est un site qui est en cours d'amélioration avec des versions bêta qui sont en test. Et puis parce que cet épisode n'a pas été généré par l'intelligence artificielle, même si je dois le dire, j'ai testé des outils en ligne qui génèrent des podcasts tout seuls, j'avoue que ça m'a rendu un petit peu triste quand je pense au nombre d'heures que je passe au montage de voir qu'en quelques secondes à partir d'un rapport, l'IA peut juste créer un podcast de toutes pièces avec des voix même parfois qui ressemblent très fortement aux nôtres. En tout cas, comme ce podcast est fait maison, si vous voulez nous donner un coup de main, n'hésitez pas à nous contacter, on a toujours besoin de bonne volonté. Et en attendant, un grand merci aux bonnes volontés qui nous aident dans la diffusion, la préparation de ces épisodes, Alexandre Carrier, Karim Baldé, ainsi que Fabrice Étifier. Un grand merci également à Clémence Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison, avec les moyens du bord. Et vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, on est maintenant sur Mastodon et Blue Sky, et vous pouvez nous écrire par email le climat en question avec un s@ecomail.fr, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.